en cette matinée du 7 juillet 1994, où nous traitons ce thème: sans la foi, il est impossible de lui plaire, en cherchant tout ce que le Seigneur peut nous dire dans le livre de Ruth. Nous aurons les 12 premiers versets du chapitre 4, mais que nous considérons dans l'ensemble de ce livre et dans l'ensemble des Écritures. Et je pensais vraiment à ce besoin que nous ressentons quand nous lisons les Écritures. Les disciples de Jésus qui avaient bénéficié de 3 années d'école biblique avec lui, eh bien, ils étaient arrivés à ne pas bien comprendre ce que le Seigneur leur enseignait. Ils disaient qu'ils avaient tout compris. Avez-vous compris ce que je vous ai dit? Oui, oui. Et au fond, ils n'avaient pas compris. Alors, nous éprouvons ce besoin que le ressuscité au milieu de nous nous parle. Je pense au chapitre 24 de Luc, où il a expliqué les Écritures d'abord aux disciples d'Emmaüs, qui ne l'ont pas reconnu. Et puis, quand ils se sont tous retrouvés à Jérusalem le même soir, Jésus ressuscité dit à ses disciples: ce sont ici les paroles que je vous disais, verset 44, quand j'étais encore avec vous, qu'il fallait que toutes les choses qui sont écrites de moi dans la loi de Moïse, c'est donc le Pentateuque, et dans les prophètes, c'est les prophètes antérieurs, c'est les livres historiques et les livres prophétique, depuis Ésaïe à la fin, à Malachie, et dans les psaumes, ce sont les livres poétiques, il faut que tout ce qui est écrit de moi soit accompli. Alors, il leur ouvrit l'intelligence pour entendre les Écritures. Et il leur dit: il est ainsi écrit, et ainsi il fallait que le Christ souffrît et qu'il ressuscitât d'entre les morts le 3e jour, et que la repentance et la rémission des péchés fussent prêchées en son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Donc nous avons besoin que le Seigneur nous ouvre l'intelligence, mais je voudrais que vous soyez persuadés que ce n'est pas notre imagination qui nous fait trouver dans le livre de Ruth la personne même du Seigneur, puisque c'est lui-même qui dit que dans toutes les Écritures, il est question de lui. Et c'est à nous, dans la dépendance du Saint-Esprit, de découvrir où nous trouvons Jésus. Et nous avons vu particulièrement dans ce livre de Ruth qu'on découvre Jésus dans quelle personne? La personne de Boaz, qui a le droit de rachat, et nous soulignons que le seul qui puisse nous racheter de la perdition éternelle, qui pouvait nous racheter, c'était Jésus. Jésus avait le droit de rachat. Certes, Dieu avait donné à Israël une loi puisque Israël, en sortant d'Égypte, avait la prétention de pouvoir faire ce que Dieu désirait. Alors nous lisons dans l'Exode que Israël a dit, bien que Dieu nous parle et nous ferons tout ce qu'il nous dira. C'est la prétention qu'avait Israël. Alors Dieu a donné la loi. Mais est-ce que la loi pouvait racheter? La loi allait démontrer l'incapacité pour l'homme de l'accomplir. Et puis si vous me dites, mais il y avait qu'Israël qui avait la loi, mais les païens n'avaient pas la loi. Oui, ils n'avaient pas la loi, mais il y avait quand même une loi naturelle qui avait été donnée dès le commencement. De sorte que quand les païens faisaient des choses qui étaient contraires à cette loi naturelle, eh bien, ils se condamnaient eux-mêmes. Mais quand ils faisaient le bien, eh bien, Dieu les approuvait. Il montrait, comme il est dit dans le chapitre 2 des Romains, qu'ils étaient une loi pour eux-mêmes, leur conscience les excusant ou les accusant. Les païens sont donc aussi responsables parce qu'ils ont une conscience. Et s'ils font le mal, ils savent très bien qu'ils font le mal. Et ce qui est terrible aujourd'hui, c'est de voir que non seulement la loi de Moïse est complètement rejetée, mais la loi naturelle est violée. Vous le comprenez? Quand on fait des choses qui sont absolument contre nature, il n'y avait pas besoin de la loi de Moïse. C'était contre nature, et c'est bien pour cela que dans les Romains, il est dit au chapitre 1er, et nous allons juste le lire pour que vous puissiez bien comprendre que il n'est pas question de notre imagination quand nous étudions le livre de Ruth et que nous y trouvons un enseignement très, très précis. Au chapitre 1er des Romains, il est dit au verset 18, « La colère de Dieu se révèle du ciel, cette colère dont j'ai parlé ce matin au sujet de Moïse, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Il est dit dans une autre épître de saint Paul, la nature même ne vous enseigne-t-elle pas? Il y a des choses qui ne sont pas correctes. La nature même ne nous l'enseigne. Ils sont donc inexcusables. Voilà ce dont il est question pour les païens. Car, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. C'est pourquoi nous avons lu que le soir de la résurrection, Jésus a ouvert l'intelligence des disciples pour qu'ils comprennent ce qui le concernait dans les Écritures. Verset 22. « Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. » Et aujourd'hui, on se vante d'être sages. On a marché sur la lune. On n'est pas même capable de marcher sur la terre. D'arrêter les guerres, d'arrêter ces choses abominables qui se passent au Rwanda. « Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant les hommes corruptibles, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. On adore tout, hein, on adore son chien, son chat, sans parler de tous les aliments qu'on aime, on les adore. Oh, j'adore manger cela. Les dinosaures, oui. Ce que vous voulez. C'est pourquoi, et c'est ça qui est terrible, hein, Dieu les a livrés. C'est une chose terrible. Quand Dieu, à un moment donné, sa patience a un terme, et il livre les hommes. Et ils font alors quoi? Ils détruisent eux-mêmes. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Ah, vous voulez faire ça? Eh bien, allez-y. Et puis, qu'est-ce qui arrive? Des maladies terribles. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Pourquoi Dieu nous a-t-il donné un corps? Pour qu'on le déshonore. Vous savez, j'ai dû assister certains malades, bien, ayant été aussi 7 ans aumônier des malades, je sais comment on peut déshonorer son corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Vous voyez comme c'est clair la parole. On dirait qu'on l'a pas lu. On a lu les journaux, oui. On est imprégné de tout ce qu'on entend à la radio, à la télévision. Et on a adoré et servi la créature au lieu du Créateur. On exalte les hommes, les champions de ceci, de cela. Et on oublie celui qui est béni éternellement, Dieu. C'est pourquoi Dieu les a livrés. Vous voyez, 2 fois, 3 fois, il est parlé de ça. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et qu'on appelle le lesbianisme. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes. Voilà ce que la Bible dit. Mais aujourd'hui, on voudrait que l'État admette cela et donne tous les droits, puis qu'on donne même des enfants la permission d'adopter, alors que l'Écriture dit que ce sont des choses infâmes. Mais vous comprenez pourquoi on rejette la Bible? On ne veut pas de la Bible, parce que quand on se met à la lire, on se sent repris, on se sent condamné. Alors je ne veux pas me mettre à lire la Bible. Et puis ces gens qui parlent de la Bible, eh bien il faudra bientôt les supprimer. Mais ça c'est dans le programme, nous le savons. Mais on fera des discours maintenant de morale, plus ou moins. Et puis ça sera surtout toutes sortes d'œuvres que l'on veut faire pour le bien de l'humanité. Pour faire prospérer l'humanité. Verset 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, pourquoi est-ce que nous avons fait tant? Pourquoi est-ce que nous les avons eus depuis tant d'années? Je peux vous dire que mon premier camp, c'était en 1931. C'est vieux, hein? Et c'est là que j'ai trouvé le Seigneur, d'une façon personnelle. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Donc on est devenu esclaves de nos sens, au lieu de dominer nos sens par la puissance du Saint-Esprit. Pour commettre des choses indignes. Ces choses, elles sont appelées indignes. Puis maintenant, on veut les justifier. Au nom de quoi? L'amour. Quelle abomination. Étant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie et de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité. rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux ont mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Et quand un gouvernement commence à approuver ces choses, on est tout près du jugement de Dieu. Ça, croyez-le. Et si j'ai accepté, malgré mon état physique, qui était, semblait-il, lamentable et condamné, eh bien, si j'ai accepté de faire encore cette année ce camp, ce n'est pas pour ajouter un camp de plus à d'autres, mais c'est parce que j'ai senti cette responsabilité de dire à ceux qui seraient là, eh bien, ce que la parole nous enseigne et que cette parole puisse nous réveiller et que nous soyons prêts pour les choses qui vont venir. Car le Seigneur nous a dit que nous devions être fidèles jusqu'à la mort. Peut-être que le Seigneur peut nous épargner et prendre les siens, ceux qu'il aime et qu'il attend, auprès de lui, avant les jugements terribles qui vont venir. Mais il y a toute une religion dans les églises qui fait croire que non, le retour du Seigneur, il est pour beaucoup plus tard, et qu'il faut d'abord que l'Évangile transforme le monde. Misère de misère. Est-ce que vous trouvez qu'il est dit que l'Évangile va transformer le monde? Alors on dit, quand nous aurons transformé le monde par l'Évangile, nous pourrons dire au Seigneur, tu peux venir maintenant, hein? On a tout fait. Hein? Maintenant, tu peux venir, c'est propre. Vous voyez la propreté dans le monde, avec même le christianisme. Mais le christianisme, il perd de plus en plus. Et qu'est-ce qui monte? L'islamisme. Alors, mes amis, ouvrons les yeux. Nous avons à cœur de vous dire ces choses et qu'elles restent en vous. Ce n'est pas du sectarisme, ce ne sont pas mes idées. Mais si vous n'êtes pas d'accord, déchirez ces pages. Mais moi, je les reçois dans mon cœur. Et si je les reçois, c'est pour les donner. Pourquoi? Parce qu'un jour, Dieu m'a appelé. J'étais très jeune, j'avais été condamné, je devais mourir. Le Seigneur m'a conservé. Alors qu'à 18 ans, j'étais condamné. Et puis, à 20 ans, bien, il m'a montré que je devais commencer. Sans prendre conseil, ni de la chair, ni du sang. Alors, qui m'a appelé? C'est le Seigneur. Pourquoi est-ce que je retournerai, si Dieu me donne la force, en Italie, encore une cette année? C'est parce que c'est là, dans ma convalescence, que le Seigneur m'a appelé. Un certain soir, à 5 heures du soir, d'un mois de décembre 1936. Alors, c'est ma raison d'être, c'est ma raison de vivre. J'étais prêt à partir quand j'ai eu ma dernière grosse opération, l'année dernière, et puis il m'a conservé. Alors, c'est pourquoi? Pour que j'attende la mort dans un fauteuil? On travaille. Et on va un jour à la fois, hein. Ce petit chant qu'aimaient tellement les Québécois, moi je l'aime aussi, un jour à la fois, puis on s'en remet à Dieu. Alors nous disions que les prétentions de l'homme, que Dieu se révèle, que Dieu nous donne sa loi, et puis nous l'accomplirons. Ben, il a donné la loi. Et qu'est-ce qu'il arrive quand on veut suivre la loi? Hein? Au fond, c'est un parent très proche, la loi, pour nous. On est tout prêt à vouloir accomplir la loi. Hein? La loi. Mais est-ce qu'elle nous délivre? Est-ce qu'elle nous amène à la victoire? À la plénitude? Je vais vous lire encore un autre chapitre, pour que vous puissiez bien comprendre le chapitre 4 de Ruth. Hein, parce que nous allons y arriver. Mais pour que vous ayez une idée, ce ne sont pas mes idées. Mais le parent qui était plus proche, et dont parle beau, qui pouvait prétendre racheter Ruth et le domaine d'Élimélec, on va lire, si vous êtes d'accord, le chapitre 7 des Romains. Et dites-vous bien que Dieu avait donné la loi, puisque l'homme disait que Dieu nous montre ce qu'il veut, et puis nous accomplirons cette loi. Chapitre 19 de l'Exode. Alors, Dieu a donné la loi, et on a entendu au pied de la montagne cette voix de Dieu, alors que la montagne était embrasée, et qui donnait les 10 commandements. Mais pendant que Moïse était sur la montagne, pendant ces 40 jours, au bout de 40 jours, qu'est-ce qu'Israël a fait? Après avoir pourtant entendu les 10 commandements que Moïse allait apporter sur des tables de pierre, les commandements étant gravés par quel doigt? Le doigt de Dieu, hein. Dieu lui-même avait gravé les tables et les donne à Moïse. Alors, pendant l'absence de Moïse, qu'est-ce qui se passe? Hein? Au bas de la montagne. Alors qu'ils ont vu la montagne trembler, qu'ils ont entendu les coups de tonnerre, la montagne embrasée, ils la voyaient. Nous ne savons pas, ils viennent dire à Aaron, nous ne savons pas ce qui est arrivé à cet homme Moïse, fais-nous un Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Un veau. Pourquoi? Ben parce qu'en Égypte, on adorait les veaux. Ce que nous pouvons être veaux, hein, sinon on singe. On adorait les animaux, bon alors, fais-nous un veau. Et puis, notre Aaron qui dit « Demain, une fête à l'Éternel », il a fait un veau avec l'or qu'on lui a porté. Et puis, on annonce une grande fête à l'Éternel. Et ils se levèrent pour manger et pour boire, je ne sais pas combien de canettes de bière, mais enfin, ils ont bu. Puis Moïse descend avec Josué de la montagne. Et Josué pense que tout ce bruit qu'on entend et qui monte là-haut, que c'est une fête, non, que c'est des cris de guerre. Et Moïse dit non, ce sont des cris de fête. Lisons dans le chapitre 32 de l'Exode. Dieu a averti Moïse. Voyez, le peuple voyant que Moïse tardait de descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. » Un Dieu qui marche devant nous, puis on fait une statue, on fait un veau qui ne marche pas. Il faut bien être fou, hein. Se disant sages, ils sont devenus fous. Qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils, de vos filles, et apportez-les-moi. Et alors là, on est toujours tout prêt, hein, à se dépouiller pour faire un veau. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron, il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et il fit un veau de métal fondu, et ils dirent, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Vous comprenez quelque chose? Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, et il cria, « Demain, il y aura une fête en l'honneur de qui ?» De l'Éternel. Et on est sacrificateur. Frère de Moïse. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes, des sacrifices, d'actions de grâce. Il y a de la religion. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Et alors vous avez l'explication de tout cela dans le chapitre 10 de la première épître aux Corinthiens, qui nous montre que tout cela a été écrit pour nous servir d'exemple à nous. Parce que l'Éternel dit au verset 7 à Moïse, « Descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. » Il a mis longtemps pour se corrompre, 40 jours. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui et ils ont offert des sacrifices et ont dit, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Alors l'Éternel dit à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. » Vous croyez que Moïse a été tenté? Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens, diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes, pour les exterminer de dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. » Vous rendez-vous compte, les prières de Moïse, hein, c'est pas du blablabla, comme on a si souvent dans nos réunions de prière, dans les églises. Qu'est-ce qu'on va, on fait le tour du monde, là. On parle de ceci, on parle de ça, nos prières. C'est des prières angoissées, hein. C'est des prières où on crie, parce qu'il y a là un danger. Dieu va châtier le monde. Alors, Moïse, pourquoi les Égyptiens, dirait-il, il prend la défense de son Dieu. Reviens de l'ardeur de ta colère. Repends-toi du mal que tu veux faire. Souviens-toi de qui? De ces hommes dont nous parlons le matin, qui ont été agréables à Dieu. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, c'est Jacob, hein, tes serviteurs. Et pourtant, c'était des hommes qui avaient les mêmes passions que nous, qui ont eu leurs faiblesses. Auquel tu as dit en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité, comme les étoiles du ciel, je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré. Mais Moïse, quand il arrive là en bas, ben, il ne veut pas se contenir, qu'est-ce qu'il fait? Il brise les tables de la loi. Ça lui a donné du travail, puisqu'il a dû refaire lui-même deux tables de pierre, qu'il a dû monter auprès de Dieu. Mais c'est quand même Dieu qui a écrit de nouveau de son doigt sur les tables que Moïse avait taillées. Et la loi était donnée, là. C'était une loi qui était tout à fait valable. Vous connaissez ces 10 commandements que j'ai essayé de rappeler aux enfants. Parce qu'il faut aussi que les enfants connaissent cette loi. Comprenez-vous? Parce que ça précise bien ce qu'est le bien, ce qu'est le mal. Ça ne veut pas dire qu'on peut le faire, hein. Mais on a une connaissance du bien et du mal. Mais ce n'est pas la loi qui va nous sauver. Alors, je lis maintenant dans le chapitre 7... des Romains, quelque chose qui va être très éclairant pour ce chapitre 4 de Ruth. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi. Donc, il fallait que je vous parle un petit peu de la loi avant. Je ne vous prends pas pour des ignorants, mais on oublie tellement facilement. Alors, je vous rappelle ces choses. Ce ne sont pas des discours de sagesse que je vous donne. Je vous apporte la parole. Et j'essaye de m'en remplir avec vous. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi. Que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Donc, Ruth a mort en ce qui concerne la loi. Jésus a accompli pleinement la loi que nous avions transgressée. Mais quand il est mort, à cause de nos péchés et de notre nature qu'il avait pris, quoiqu'elle était sans péché, la sienne, eh bien, nous avons été mis à mort en ce qui concerne la loi pour que vous apparteniez à un autre. Nous ne sommes plus sous la loi pour être dominés par la loi, parce que oui, la loi est sainte, juste et bonne, mais je n'arrive pas à l'accomplir. Et c'est l'expérience que vous faites, oui ou non, est-ce que vous l'avez faite, cette expérience? Qu'au fond, vous avez le désir de faire le bien, mais qu'il y a en vous une puissance qui vous pousse à faire le mal. Est-ce que vous avez encore la prétention de pouvoir accomplir la loi? Est-ce que vous avez encore la prétention de vous justifier par des œuvres de loi? Il y a des jours où vous vous trouvez, ah, c'est pas mal hein, ce que j'ai vécu aujourd'hui. Hein. Je suis bon. Dans la soirée, ça sera la catastrophe. Le jour où vous pensez que vous êtes bien, hein, beau, bon, quelle laideur. Eh bien, voilà, alors, on est toujours en dents de scie sous la loi. Hein. Un moment, on est exalté, puis après, on est découragé complètement. Nous avons été mis à mort en ce qui concerne la loi. Alors, quand un homme est mort, est-ce que la loi a encore quelque chose à lui dire? Non? Il est mort, c'est fini. Alors, considérez-vous comme mort. Mais comment pouvez-vous vous considérer comme mort, alors que vous vous sentez bien vivant? Par la foi. La foi, c'est pas un sentiment. Vous n'avez pas besoin de sentir que vous êtes mort. D'abord, un mort, il sent rien. Comprenez cela, et c'est ça que j'ai supplié le Seigneur, que dans ce temps, on arrive à une compréhension du si grand salut de Dieu, parce que je ne voudrais pas que vous repartiez avec votre petit salut qui vous dit « j'irai pas en enfer à ma mort », puis que vous viviez misérablement tous les jours de votre vie. C'est cela que j'ai demandé au Seigneur, si tu veux que je fasse encore un camp, au moins fais-leur comprendre cela. Pour qu'ils ne repartent pas découragés, mais qu'ils aient compris certainement qu'ils sont morts et qu'ils ont à se considérer comme morts, qu'ils n'ont pas à se tâter pour voir s'il y a encore un peu de vie par là-dedans. Nous sommes morts, et c'est ça la foi. Vous êtes sauvés par la foi pour vivre tous les jours d'une vie de foi. Je crois ce que tu me dis, Seigneur, puisque c'est toi qui dis que je suis mort. C'est ça qui est merveilleux. Mais vous voyez que la foi, c'est quelque chose de quotidien. C'est pas il y a X années que je suis converti. Alors, il y a tellement de chrétiens, je dis pas qu'ils sont perdus, mais qui n'ont pas de témoignage parce que ils sont pas éclairés là-dessus, ils sont pas affranchis. et ils pensent que depuis leur conversion, ils auraient dû s'améliorer. Plus j'avance dans la vie spirituelle, plus je découvre les noirceurs de ma nature. Mais ce n'est plus moi. Sur la croix, oui, j'ai été là, dans toute cette noirceur. Et Dieu a détourné sa face de celui qui me représentait, de sorte qu'il ne peut plus détourner sa face de moi. Il a détourné sa face de son propre fils qui était sans péché, mais s'il a détourné la face de son fils, c'est parce que j'y étais. Comprenez-vous? Mais j'ai été, comme Jésus a été enseveli, j'ai été enseveli avec lui. Mais comme Jésus est ressuscité, j'ai été ressuscité avec lui. Et c'est cela que Dieu me dit. Alors, puisqu'il me dit que j'ai été ressuscité avec lui, j'ai à le croire. Et non plus à me regarder. Parce que si je me regarde, c'est toujours la laideur. Mais si je le regarde lui, nous sommes, c'est pas nous qui nous transformons, mais nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. Mais on ne s'attribue plus rien. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis dans la chair, parce qu'on est encore dans la chair, hein, mais une chair qui ne s'améliore pas, ce que je vis dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé. C'est toi qui es moi. Ce n'est plus moi, c'est toi. Et je m'empare de cela. C'est ça la vie chrétienne. Et alors on n'est pas découragé. Voyez-vous, je voudrais que vous puissiez comprendre qu'il y a un héritage que vous devez récupérer. Quelqu'un peut vous donner un héritage. Et ce quelqu'un qui a le droit de rachat, parce que tout a été vendu. Hein. Nous avons péché, nous avons tout vendu, nous sommes dépouillés de tout. Qui est-ce qui peut nous redonner l'héritage? C'est le Rédempteur qui était promis. Jésus. Alors, nous continuons. Verset 4. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été mis à mort, par le corps de Christ, en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres. Parce que justement, la loi est un révélateur pour montrer combien nous sommes mauvais. Mais ce que vous entendez, c'est tout à fait contraire. On dit, mais vous avez un bon fond, qui me fait dire un drôle de trou. Un bon fond. On a un bon fond. Oh, ce petit, oh, il est adorable. Oh, ce petit. Nous les aimons, les petits, oui. Mais nous savons très bien qu'ils ont le même fond que nous. Et que notre fond n'est pas bon. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Et nous le constatons. Mais maintenant, bien maintenant, nous avons été dégagés de la loi. Étant mort à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Alors, on passe plus loin. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Mais ça ne veut pas dire, avant que Dieu ait donné la loi, est-ce que le péché existait? Bien sûr, le péché était là. Et la preuve, c'est qu'on mourait. Hein. Le salaire du péché, c'est la mort. La mort a régné, alors ça c'est le chapitre 5 des Romains. La mort a régné même sur ceux qui n'ont pas transgressé de la même manière qu'Adam. le péché était donc là, mais il n'était pas mis en compte, parce qu'il n'y avait pas la loi. Mais quand le peuple a prétendu qu'il pouvait suivre la loi, hein, Dieu lui a donné la loi. Hein. Je vous donne la loi, voilà mes pensées, voilà ce que je désire. Et alors, l'homme, au lieu d'accomplir la loi, il l'a transgressée. Dieu avait dit, faites ces choses et vous vivrez. Et puis, c'était le contraire qui était manifesté. Par la loi, nous nous trouvons condamnés. Parce que si même vous dites, j'ai pas tué, j'ai pas volé, j'ai pas commis adultère, comme la plupart des gens radotent ça, et n'ont pas du tout de conviction de péché, quand il est dit que même si tu as convoité, si tu as jeté un regard de convoitise sur une femme ou autre chose, eh bien, tu as déjà commis le péché. Que dirons-nous donc, verset 7 ? La loi est-elle péché ? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit « Tu ne convoiteras point ». Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, et sans loi, le péché est mort. C'est vrai. Mais si vous êtes sous la loi, vous verrez que le péché est bien vivant alors. Mais tenez-vous pour mort au péché, le péché est là dans la chair. Mais regardez-vous comme mort. Et alors le péché ne tente plus un mort. Verset 9. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte, le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort ? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifeste comme péché, en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement, il devienne condamnable au plus haut point. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Mais pour admettre ça, hein, faut en être convaincu. Si vous n'en êtes pas convaincu, je comprends que votre vie est végétative. Il faut arriver à cette conviction-là. Ce n'est pas une amélioration du moi, mais justement, toute cette psychologie qui entre dans les églises, c'est lamentable. Parce que on met votre moi en avant, alors que Jésus a dit clairement, renonce à toi. C'est fini. Parce que si l'homme avait pu se sauver par ses efforts, Dieu n'aurait pas envoyé son Fils. Comprenez-vous, c'est clair. Et tout cela rabaisse Christ. Tout cela enlève la place au Christ. Ça l'enlève tellement que maintenant, la place qu'on donne au Christ, c'est sur les voitures. On a mis « Jésus t'aime tel que tu es ». Comme il n'y avait plus de plaque devant, on vous disait « Ben voilà, vous pouvez acheter cette plaque, puis vous faites de l'évangélisation avec ça. Jésus t'aime tel que tu es ». Tiens, le premier qui m'a donné, ça c'est Reginbald, le père Reginbald, Dieu est son âme, mais il me dit, tiens Gaston, tu viens nous aider, tu nous apportes la vérité. Bon, alors, vous croyez que ma femme serait d'accord que je mette cette plaque Jésus t'aime tel que tu es? Elle me dit, mais Gaston, tu voudrais qu'il soit rempli de vous? Que cette plaque Jésus t'aime tel que tu es, et puis tu remplis cette plaque de boue? C'est pas là qu'on met une plaque. Ben, bien sûr, elle avait raison, mais je voulais pas la mettre. Mais enfin, on était d'accord, mais on pensait, mais non, on évangélise. On évangélise. Et puis voilà que je brûle un feu rouge, je fais un accident, puis le type est dessous, puis il voit Jésus t'aime tel que tu es. Puis je vais évangéliser. Ah, c'est des moyens modernes. On veut tellement couvrir avec le nom de Jésus partout. Tu n'emploieras pas le nom de ton Dieu en vain, mais nous sommes cinglés comme chrétiens. Nous sommes de drôles de chrétiens.
je dis cela sans méchanceté, hein, mais je le dis pour moi-même. Il faut vraiment que le Seigneur nous ouvre l'intelligence. Parce que nous faisons des folies. Puis nous pensons que nous faisons du bien. Alors verset 15. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je veux, je ne veux pas. Je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi, parce qu'il est toujours en nous. Comprenez-vous? Le péché, il est en nous. Faut pas vous étonner si vous constatez qu'il est en vous. Mais vous devez, par la foi, vous tenir comme mort au péché. On ne répond pas. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Mais justement, on croit toujours qu'il y a quelque chose de bon en nous. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. J'ai trouvé donc en moi cette loi que je veux faire le bien et le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, et c'est ce que vous éprouvez, mais vous voyez dans vos membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Puis il y a ce cri, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort, ou de ce corps de mort. Puis alors, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Sauveur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Et alors, de ce chapitre 7, on passe au chapitre 8, qui nous montre la délivrance. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. J'ai pris, c'est souvent mon stylo, regardez, il est bien, hein, c'est pas formidable, mais enfin, voilà, mon stylo. Hein. Qu'est-ce qu'il subit si je le lâche? Il subit la loi de la pesanteur. Ben, nous subissons, laissés à nous-mêmes, nous subissons la loi du péché et nous tombons. Mais il est une autre loi, la loi de la vie qui est dans ma main, peut affranchir mon stylo de la loi de la pesanteur. Et tant que mon stylo est dans la main, il ne tombe pas et il me devient utile. Laissé à lui-même, il ne fait rien. Et il ne peut rien. Mais quand je le tiens dans la main, il peut faire tout ce que ma main veut que je fasse. Eh bien, en Jésus-Christ, quand on se donne à Jésus-Christ, quand on se laisse saisir par Jésus-Christ, c'est ça, se laisser saisir par Jésus, c'est lui qui nous tient. Et c'est lui qui œuvre avec nous. C'est pourquoi il est demandé de livrer nos corps en sacrifice saint, agréable à Dieu. C'est lui qui veut faire. Alors, ce que j'ai souvent souligné avec Marie, la mère bénie de notre Seigneur, elle dit « qu'il me soit fait selon ta parole ». C'est pas « je veux faire des choses ». Elle dit « c'est impossible pour moi, comment ces choses peuvent-elles se faire ?» Et on lui dit, l'ange lui dit, que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et alors, elle dit « eh bien, qu'il me soit fait selon ta parole ». Et elle s'abandonne. Alors maintenant, du reste, nous allons reprendre ça ce soir, mais il m'a semblé bon de vous ouvrir un peu les Écritures pour que vous puissiez saisir maintenant ce qu'on va lire et trouver vous-même qui est celui qui était plus proche parent que Boaz, qui est venu avant la grâce et la vérité. Qu'est-ce qui a été donné à l'homme? La loi, n'est-ce pas? Mais la loi n'a rien amené à la perfection. Alors, est-ce que la loi va nous racheter? Il y a un proche parent. Alors il faut savoir qui est ce proche parent. Et quand vous commencez à lire ce chapitre 4, vous voyez que si j'avais dit simplement comme annonce, on va lire le livre de Ruth. Hein? Qu'est-ce qu'il va nous dire sur le livre de Ruth? Tandis que quand j'ai compris, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Ça vous intéresse peut-être, hein? Bon. Mais ce n'est pas nécessaire, je vous dis que c'est le livre de Ruth qu'on va étudier. Parce qu'on va voir ce que la foi peut faire là dans le livre de Ruth. Hein? Alors hier, au chapitre 3, que nous avons médité, nous avons vu que le dernier acte du travail de Boaz allait s'accomplir. La moisson était terminée, il devait vanner, et vous avez bien compris ce que c'est que vanner, hein, c'est enlever les impuretés ou l'enveloppe du grain. Il vanne sa récolte dans l'air, le lieu où le vent passera, après quoi il va assembler sa récolte ou dans les greniers. Hein. Il y a eu les semailles, il y a eu la moisson, et puis il y a eu, à la fin de la moisson, c'est la glane, et puis maintenant, eh bien, c'est la vanne. Et Boaz était satisfait. Son cœur était satisfait. Alors, Ruth a raconté tout cela à sa belle-mère, comment elle avait été reçue. Alors, Ruth s'est tout à coup demandé, mais est-ce qu'il repousserait la pauvre Moabite quand Naomi s'est rendu compte, mais c'est le parrain d'Élimélec, Boaz, cet homme riche et puissant. Et au fond, comme parents, ils pourraient nous racheter. Alors, elle réfléchit. Et voyez-vous, c'est là que vous voyez que Naomi a bien changé. Et qu'elle est pleine maintenant de confiance. Avant, elle était pleine d'amertume. C'est vrai. Hein? Elle a même dit, quand elle est arrivée à Bethléem, ne m'appelez plus Naomi, mes délices, appelez-moi Mara. Elle était amère, puis elle disait, Dieu est contre moi. Mais non, mais Dieu l'avait éprouvée parce qu'il voulait la bénir. Alors, elle est pleine de confiance, tout à coup, elle voit que Dieu a usé de miséricorde envers les vivants, puis elle pense, mais au fond, il a aussi usé de miséricorde envers les morts, elle n'est plus révoltée, et elle est soumise, et puis elle commence à voir les choses d'une façon toute différente. Et elle se dit, mais comment est-ce que Boaz va être avec Ruth? Alors elle est confiante, d'après ce que Ruth lui a dit, de ses relations avec Boaz, puis elle veut indiquer à Ruth le chemin de la bénédiction. Quand elle était en Moab, elle n'indiquait pas à ses belles-filles le chemin de la bénédiction, elle leur disait de retourner vers leur Dieu. Vous voyez comment on peut devenir, même comme croyant. Quand on est dans un milieu pareil, ben, pourvu que tu sois heureuse, ça me suffit. Hein. Pourvu que tu sois heureuse, hein. Peu importe que Dieu t'approuve, peu importe que tu sois agréable à Dieu, pourvu que tu sois heureuse. Voilà où on en arrive avec notre témoignage chrétien. On subit l'ambiance. Et alors maintenant, elle a compris autre chose. Elle sait que Boaz est son parent, qu'il a le droit de rachat. Mais comment Ruth va-t-elle agir? Alors, elle lui conseille, elle lui montre le chemin de la bénédiction. Lave-toi, oint-toi et revêt tes habits et descends dans l'air. Donc, il y a pour Ruth, et disons pour l'âme,
qui veut rencontrer le Seigneur, une préparation. On est lavé par la parole de Dieu. Le lavage d'eau par la parole de Dieu. Quand on croit la parole qui nous met au bénéfice de l'œuvre de Jésus et qui nous a rachetés au prix de son propre sang. Mais alors, il faut que vraiment nous nous préparions pour cette rencontre. Mets sur toi tes habits et descends dans l'air. Non pas descends dans la discothèque. Ruth doit se préparer. Et puis, qu'est-ce qu'elle lui dit ? Couche-toi à ses pieds. Elle lui dit pas, essaye de le séduire cette nuit-là. Non. Observe tout et sache attendre qu'il ait mangé et bu. Je vous en ai parlé un peu hier. Couche-toi à ses pieds et attends qu'il te parle. Comme Samuel qui allait se coucher, il devait attendre que Dieu l'appelle à nouveau. Et elle lui dit bien ceci, verset 4. Quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Donc elle n'a pas à se regarder, elle. Elle a fait le nécessaire, elle s'est lavée, elle s'est parfumée, elle s'est bien habillée. Ensuite, qui observe où il se couche, va découvre ses pieds et couche-toi, donc là, tout près. Il te dira, c'est ça qui est merveilleux, lui-même. Donc, tu n'as rien à faire que ce que je te dis de faire. Couche-toi, tu n'as pas à commencer la conversation, il te dira lui-même ce que tu as à faire. Elle lui répondit, voilà la foi, je ferai tout ce que tu as dit. N'est-ce pas merveilleux? Alors elle descend, on ne revient pas là-dessus. Est-ce que nous avons compris que nous devons nous coucher aux pieds du Seigneur? Et attendre sa parole? Nous avons entendu sa voix. Comme Ruth dans son travail. Alors maintenant, je vous pose la question, où nous trouvons-nous maintenant ? Sommes-nous spirituellement entrés pour y passer la nuit dans l'air de Bose, de notre divin Bose, ou dans l'air des étrangers ? Avons-nous compris comme Ruth tout ce que tu as dit, je le ferai. Sommes-nous couchés à ses pieds, attendant paisiblement sa parole, pendant les heures de la nuit? Parce qu'on est dans la nuit. Le Seigneur a disparu. Mais nous savons où il est. Alors on est à ses pieds. Mais bientôt, notre divin Bose va sortir de son silence. Il est dit, au milieu de la nuit. Et ça vous fait penser à quoi, ça? La parabole de qui? C'est dit bien, ça. Au milieu de la nuit, tout à coup, pendant la nuit. Voici l'époux sortant à sa rencontre. Mais voilà, elle est là. Elle est là, à ses pieds. Soudainement, Bose se réveille. Et voyez-vous, au point de vue prophétique, je n'ai pas pu m'engager là de vous donner toutes ces descriptions, mais avant que le jour se lève, il va se passer quelque chose. Avant que le soleil de justice paraisse, qu'est-ce que l'on voit? L'étoile du matin. C'est seulement ceux qui veillent, qui sont aux pieds du Seigneur. On peut se moquer de nous, tout ce qu'on veut, ça n'a pas d'importance. Parce que le Seigneur, alors, se fera connaître, comme il se fera connaître aussi à Israël après. Mais en attendant,
rien ne doit être manifesté. C'est quelque chose de secret qui va se passer. Et là, à la fin de ce chapitre, vous voyez que c'est secret. Hein, que personne ne sache qu'une femme a été ici. Mais qu'est-ce qu'il lui donne? Il ne lui donne pas encore la promesse certaine de son mariage, hein, qu'il la rachète, mais il lui fait la promesse, si celui qui est le plus proche parent ne te rachète pas, je te rachèterai, je le ferai. Et pour qu'on ait cette assurance, qu'est-ce qu'il nous donne? Les six mesures, les arts de notre héritage. Est-ce que vous les avez? Pour que Ruth n'aille pas sans rien vers sa belle-mère. Nous avons reçu les arts de notre héritage. Nous avons le Saint-Esprit. En attendant la pleine manifestation de la gloire de Jésus, nous avons déjà les arts. Le Saint-Esprit est en nous. Nous habite. Nous avons les six mesures, nous avons assez pour les six jours ouvrables. Mais le grand repos, nous l'aurons dans les noces qui viennent. Mais il faut encore que certaines choses soient réglées. Alors, chapitre 4. Boaz monta à la porte. Et vous voyez, ce que Naomi a dit à Ruth s'est accompli à la lettre. Hein. L'homme n'aura pas... Demeure tranquille, ma fille. Nous n'avons pas à nous énerver. Demeurons tranquilles maintenant. Malgré tous les événements, tout est entre les mains du Seigneur. Qui est-ce qui règne malgré tout? C'est le Seigneur. Hein. Satan presse ce monde, mais il sera bientôt chassé. Et nous sommes dans la paix. L'homme n'aura pas de repos qu'il n'ait terminé l'affaire aujourd'hui. Et pour vos âmes, chacun individuellement, vous devez croire que l'œuvre qu'il a commencée, il va la rendre parfaite pour le jour du Christ. Pour le jour de... Laissez-vous faire par lui. Laissez-vous vanner par le Seigneur. Et tout cela sera mis de côté. Abandonnez-vous au Seigneur, livrez vos corps en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, qu'il puisse faire de vous ce qu'il veut. Et alors, Boaz monta à la porte. La porte, c'était le gouvernement. Il s'y arrêta. Or, voici celui qui avait le droit de rachat et dont Boaz avait parlé, vint à passer. Boaz lui dit, approche, reste ici. Toi, un tel, il l'a certainement appelé par son nom, mais... T'arrêta. Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville. Il fallait être 10 pour qu'une séance soit valable. Pourquoi, vous le savez, en tout cas je l'ai dit souvent dans les temps, c'est à cause d'Abraham qui était allé jusqu'à 10 dans son intercession. Pour qui? Pour Sodome. S'il y avait 10 justes à Sodome, alors que dans l'Église avec Jésus-Christ, il dit là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Mais dans les synagogues, on ne peut pas commencer un service s'il ne sont pas 10 personnes présentes. C'est pour ça qu'il faut être à l'heure quand même, de toute façon ça traîne. Oui, c'est vrai, c'est logique, mais ça... Boaz prit 10 hommes parmi les anciens de la ville et il dit, asseyez-vous ici. Et il s'assit. Puis, il dit à celui qui avait le droit de rachat, Naomi, revenue du pays de Moab, a vendu la parcelle de terre qui appartenait à notre frère Elimelech. J'ai cru devoir t'en informer et te dire, acquière-la en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple. Parce que c'était une loi, hein. Le proche parent devait, au fond, racheter. Si tu veux racheter, rachète, mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi, afin que je le sache. Car il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat. Et je l'ai après toi. Et il répondit, je rachèterai. Hein, tout de suite. Il y en a qui ont cette prétention. La loi peut nous racheter. Suivez la loi et vous vivrez. Et la loi est bonne, elle est sainte, elle est parfaite, c'est vrai. Mais est-ce que la loi peut vous racheter? Je te rachète, je rachèterai. Il y a la prétention.
C'est vrai que la loi est sainte, juste et bonne. Et qu'elle est venue en premier, hein, pour le salut de l'homme. Mais pour que le salut puisse s'accomplir, il fallait d'abord que l'homme soit convaincu qu'il ne pouvait rien faire. Bose dit, le jour où tu acquerras le champ de la main de Naomi, tu l'acquerras en même temps de Ruth la Moabite, femme du défunt, pour relever le nom du défunt dans son héritage. Parce que s'il n'y a personne comme héritier, à qui va l'héritage? À l'État. Mais il y a quelqu'un là. Et là, celle qui représente Maclon, c'est la femme, c'est Ruth, c'est la veuve. Et celui qui avait le droit de rachat répondit. D'un coup, il réalise. Il dit, je ne puis pas racheter pour mon compte. Crainte de détruire mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne puis pas racheter. Autrefois, en Israël, pour valider une affaire quelconque relative au rachat ou à un échange, l'un ôtait son soulier et le donnait à l'autre. Cela servait de témoignage en Israël. Parce que le soulier, le pied, n'est-ce pas, là où tu poseras ton pied, c'est à toi, hein, ça t'appartient. Alors, si tu enlèves ton soulier, ça ne t'appartient plus. Partout où tu poseras la plante de ton pied, le terrain t'appartiendra. Alors, il enlevait son soulier. C'était une coutume. Je ne vais pas relire le texte, mais je vous l'ai cité. C'est dans le chapitre 25 du Deutéronome, comme aussi dans le chapitre 23. Il y a le chapitre 25 du Lévitique et 25 du Deutéronome. Deutéronome 25, 5 à 10, et Lévitique 25, 25 à 28. On a déjà lu cela, mais vous pourrez retrouver tout cela. Celui qui avait le droit, verset 8, le droit de rachat, dit donc à Bose, acquiert pour ton compte, et il ôta son soulier. Alors Bose dit aux anciens et à tout le peuple, vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech, à Kilion et à Maclon. Hein, il a tout racheté. Et que je me suis également acquis pour femme Ruth la Moabite, femme de Maclon, pour relever le nom du défunt dans son héritage, et afin que le nom du défunt ne soit pas retranché dans ses frères de la porte de son lieu. Vous en êtes témoin aujourd'hui. Vous voyez comme les choses se faisaient d'une façon régulière. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens, donc c'était quelque chose de public, dire « nous en sommes témoins ». Et puis comme on admet Ruth, c'est tout le peuple qui admet Ruth, c'est ça qui est merveilleux. Bose a fait une chose merveilleuse, c'est que c'est pas seulement lui qui l'accepte, mais les anciens étant d'accord, c'est tout le peuple qui est autour qui est d'accord. Donc Ruth est reçue en Israël. Quelle joie pour Naomi, la récompense de la foi. Nous en sommes témoins. Alors, que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison, qui on l'identifie à qui? À des vrais Israélites, Rachel, Léa, qui sont les mères des tribus d'Israël avec leurs servantes, bien sûr, puisque les enfants des servantes sont nés sur les genoux des mères, et les mères les ont comme enfants. Que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa. Vous ne trouvez pas que c'est merveilleux? Ruth la Moabite, semblable à Rachel et à Léa. Et vous la trouverez dans la lignée du Messie, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Et voilà maintenant Ruth qui est introduite. Et c'est une image du peuple qui n'est pas israélite. C'est une image de l'Église qui vient des païens, n'est-ce pas, qui est introduite aussi dans le peuple de Dieu. C'est merveilleux. Manifeste ta force dans Éphrata. Voilà ce qu'ils disent à Bose, hein, en lui est la force, c'était là son nom, manifeste ta force dans Éphrata, c'est la contrée autour de Bethléem, et fais-toi un nom dans Bethléem. Puisse la postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme. » Ils y croient. Mais, mes amis, elle a déjà été mariée 10 ans, puis elle n'a pas eu d'enfant. Elle prenait la pilule. Puisse la postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme rendre ta maison semblable à la maison de Pérès, qui fut enfantée à Juda par Tamar. Voilà encore une autre femme, Tamar, qui est nommée et qui se trouve dans l'histoire du Seigneur. Alors on s'arrête là. 48, ça va. J'avais un peu peur de ne pas arriver. Mais on continuera ce soir. Et ce que nous devons comprendre, donc, le parent le plus proche, c'était la loi qui nous a été donnée en premier. La loi est venue par Moïse. Mais est-ce qu'elle a amené à la délivrance, à la libération? Est-ce que la loi, par la loi, est-ce qu'on peut être racheté? On ne peut pas. Et la loi admet finalement qu'on ne peut pas racheter. Nul ne sera justifié par des œuvres de loi. Voilà ce que dit la parole. Donc, celui qui avait le droit de rachat reconnaît qu'il ne peut pas. La loi est impuissante pour nous racheter. Elle peut nous montrer certaines vérités, mais elle ne nous rachète pas. Il nous faut le Rédempteur. Qui me délivrera du corps de cette mort? Et Rab, le fils de Rab, a été le libérateur pour Ruth. Et alors, depuis le verset 13, nous voyons que Boaz a épousé Ruth, il est allé vers elle, et le Seigneur a permis qu'elle conçoive. Si je n'avais pas éprouvé à certains moments de ma vie l'authenticité de tout cela, je ne vous prêcherais pas. Je n'oserais pas. Mais un jour, je l'ai déjà raconté peut-être ici, j'ai reçu cette parole. J'étais à Londres. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel, moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter, dit ton Dieu. J'étais comme catastrophé quand, après une grave maladie de la mère de mes enfants, j'avais dû partir pour 3 mois. Le médecin nous avait dit, en tout cas, plus d'enfants. Puis 2 ans avaient passé. Mais comme je partais pour 3 mois, ma femme a désiré qu'on ait encore, qu'on se donne l'un à l'autre. C'est ce qu'on a fait. 1 mois et demi après, je reçois une lettre. Gaston, je suis enceinte. J'étais tellement catastrophée. Je me suis vu un criminel. J'ai pensé à tous les membres de la famille qui étaient de ma femme, qui étaient pauvres seigneurs, et qui diraient que j'étais fou. Oh, et évidemment qu'ils ne voulaient pas que je sois sans relation sexuelle, mais prends les moyens qu'il faut. J'étais vraiment catastrophée. Ma femme, elle était toute heureuse, elle en voulait 12. Elle m'écrivait, pas en me reprochant quelque chose, mais c'était merveilleux. Moi, c'était pas du tout merveilleux. J'avais encore 2 mois à faire en Angleterre. Et je me suis mis à genoux dans cette chambre, j'ai crié au Seigneur, j'ai dit, c'est pas possible. Puis le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, mais au fond, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as péché? Mais il parle, le Seigneur. Mais non, c'est ma femme quand même. Alors, de qui est-ce que tu as peur? Et j'ai dit de l'avouer de ma belle-mère. Oui, mais c'est très simple. Ma belle-mère, je savais qu'elle m'aimait bien, mais elle m'aurait dit un imbécile. Mais qu'est-ce que tu as fait? Puis tu mets ta femme en danger de mort maintenant, puis tu as quand même 4 enfants. Oui, c'était ma belle-mère. Peut-être Marie-Lise ne serait pas contente que je raconte ça, parce que c'est de Marie-Lise qu'il est question. Alors vous comprenez pourquoi je l'appelais Marie-Lise Grâce? Parce que là-bas, il y avait beaucoup de grâce, on dit grâce hein, là-bas. Mais en France, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire grâce. Un jour, mon beau-frère, il est maintenant mort aussi, mais il était un homme politique à Paris. Et puis, ma petite était avec, Marie-Lise était avec lui, dans le Puy-de-Dôme. Puis une bonne sœur catholique avec les cornettes, c'était encore ce temps-là, qui passe, qui dit, oh, qu'elle est mignonne, cette enfant. Puis mon beau-frère dit, oh, elle s'appelle Grâce. En effet, elle n'est pas maigre. Alors, il ne faut pas estropier les noms. Eh bien, vous avez quand même ri. Oui.
Quelle a été la réaction de la belle-mère?
Ben, elle a aimé Marie-Lise. Ça c'était...
Envers vous?
Ah, envers moi, non, elle a finalement compris. Parce que, alors, moi j'étais là dans la détresse. Hein, et j'ai dit, donne-moi une parole. Puis c'est cette parole qui m'a été donnée. Et j'ai reçu alors l'assurance que cet enfant... D'abord, j'ai compris que ce serait une fille. Il n'y avait pas d'échographie. Hein. Mais que ce serait une fille parce qu'il fallait qu'elle s'appelle Grâce. Parce que vraiment, ce serait l'enfant de la grâce hein, pour moi. Mais comme la vieille reine-mère s'appelait Mary, j'étais en Angleterre, alors j'ai dit Mary. Lise, c'était une de mes camarades d'enfance, Claire-Lise de Benoît. Alors, Lise, et puis, camarade de ma conversion, quand j'avais 13 ou 14 ans, et puis Grâce, Marie-Lise, Grâce. Je m'excuse, c'est un peu personnel. Ben oui, mais c'est pour vous dire, j'ai cru cette parole. Hein. Moi qui fais naître, fermerai-je la salle de la matrice, moi qui fais naître. Je crois que nous avons beaucoup à apprendre et à revenir à cette foi dans tous les domaines de l'existence. Dieu notre Père, nous voulons te bénir et te rendre grâce parce que oui, nous comprenons que sans la foi, il est impossible de te plaire. Mais nous voulons croire, nous voulons nous emparer de ces promesses de ta parole. Et nous te bénissons de ne pas nous laisser sous la loi pour essayer de nous racheter. Nous serions malheureux. Et tu nous dis que tous ceux qui sont sous la loi sont sous la malédiction. Nous ne sommes pas affranchis. Bien, nous voulons te demander que dans ces derniers moments que nous passons ensemble, nous puissions comprendre quel affranchissement tu nous donnes, et que définitivement nous ne regardions plus à nous-mêmes pour nous décourager, mais que nous regardions à celui qui nous représente devant la face de Dieu, et qui dit, tel qu'il est, tel vous êtes dans ce monde. Donne-nous de regarder à ce que tu dis, et non pas à ce que nous ressentons, afin que nous soyons toujours joyeux, nous condamnant nous-mêmes, portant toujours dans le corps la mort de Jésus, afin aussi que la vie de Jésus soit manifestée en nous pour les autres. Pour ta seule gloire, Père très saint, au nom de Jésus qui nous exauce toujours, et par la puissance du Saint-Esprit qui nous illumine et nous éclaire. Amen.